pour une jeune fille, pour une enfant, c'est plus facile de tomber malade que de se révolter.
La santé sexuelle, c'est pas juste une absence de maladie ou de douleur ou de problème. C'est vraiment le fait d'avoir la liberté de vivre sa sexualité avec les personnes qui nous attirent et d'être en sécurité dans sa sexualité.
Avec le MLF, j'ai pu mettre des mots autour de tout ça, que le personnel est politique et ce qui nous arrive à l'une ou à l'autre, c'est pas juste notre petite histoire personnelle, mais qu'elles se ressemblent étrangement les unes aux autres.
C'est le même combat, c'est la question de l'autonomie, de l'autodétermination, du contrôle des corps et de qui contrôle les corps et à qui ça profite.
Delaël, le podcast intergénérationnel de la Commission fédérale pour les questions féminines. Avec Maïva Badré et Rina Nissim. L'une a 29 ans, l'autre 71 ans tout juste. La première est doctorante en biologie et éducatrice à la vie affective et sexuelle. La seconde a un diplôme d'infirmière, elle est ensuite devenue naturopathe, elle est également auteure et activiste. Deux femmes issues de deux générations différentes sont à mes côtés pour parler de leur engagement féministe et particulièrement en santé sexuelle. Je reçois Maïva Badré et Rina Nissim. Bonjour à vous.
Bonjour.
Mais bonjour.
Vous vous rencontrez aujourd'hui pour la toute première fois. Pour commencer, je vais me tourner vers toi, Maïva. Est-ce que tu voudrais continuer un peu la présentation que j'ai faite en introduction et raconter peut-être comment tu as entendu parler de Rina Nissim au cours de ton parcours ?
Oui, moi j'ai été formée d'abord comme éducatrice à la vie affective et sexuelle, comme tu l'as dit, au planning familial en France, où je suis toujours du coup bénévole militante, planning familial de Haute-Savoie, donc à Annemasse et Annecy. Et j'ai travaillé comme médiatrice scientifique au Bioscope sur un atelier qui s'appelle Sexe, où on fait de l'embryologie des organes génitaux et on parle de sexe biologique et de tous les sexes qui existent, enfin, ou en tout cas du fait qu'il y ait une diversité de sexes qui existent. Le Bioscope, c'est un laboratoire public de l'Université de Genève, c'est-à-dire que c'est un laboratoire où on fait de la vulgarisation, où on accueille du grand public et on accueille beaucoup de classes qui viennent avec leurs enseignants faire des ateliers scientifiques sur plein de sujets différents. Ça peut être en lien avec la biodiversité, ça peut être en lien avec la santé, avec le stress et avec le sexe.
Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as croisé le chemin ou le travail de Rina Nissim ?
Oui, alors je pense que la première fois que je l'ai vue et entendue, c'était à une table ronde en 2019. Il me semble que c'était sur les corps et la réappropriation des corps. Et c'est suite à cette table ronde que j'ai lu tes livres « Mamma Mélisse » et « Une sorcière des temps modernes » qui m'a beaucoup parlé, parce que je parlais aussi de self-help dans ce que j'écrivais à l'université, ça me parlait aussi personnellement, et c'est comme ça que j'ai découvert ton travail.
Est-ce que tu te souviens de cette soirée, Rina ?
Oui, je me souviens bien de cette soirée. Je crois que c'était dans le cadre, en fait, d'une exposition LGBTQI à l'Université de Genève.
Et est-ce que par rapport à ta présentation, ton parcours de vie, il y a des choses que tu aimerais rajouter pour qu'on comprenne un peu mieux qui tu es ?
To make a long story short ?
Oui.
Oui, je peux peut-être ajouter, je suis une des cofondatrices du dispensaire des femmes en 78. Le dispensaire des femmes a été fondé par un collectif dont je faisais partie et d'autres infirmières comme moi. Donc il y avait moitié des médicales, moitié des non-médicales qui s'étaient mis ensemble pour faire une médecine différente pour les femmes et par les femmes. Une médecine humaniste, féministe et qui emploie le moins de médicaments possible en ce qui concerne les médicaments de la médecine moderne occidentale. Je fais partie ici d'Espace Femmes Internationales, qui existe depuis 1993. J'ai la groupite aiguë, ça veut dire que je travaille toujours en groupe. Donc toutes les choses que j'ai faites, ça a toujours été dans des groupes et dans des collectifs. La liste est longue.
Alors on va revenir sur vos parcours au fur et à mesure de cet épisode. Je l'ai dit en introduction, vous êtes toutes les deux issues d'un cursus scolaire scientifique, la biologie pour Maïva et les soins infirmiers pour Rina. Quel a été le déclic qui a fait que vous avez décidé de vous tourner vers la santé et plus spécifiquement la santé sexuelle et la santé des femmes ?
Pour moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la fois dans des associations féministes étudiantes et à la fois j'étais en biologie, ce qui me plaisait pas trop en plus à l'époque. Il y a un moment où j'ai compris que je pouvais faire de la biologie féministe et faire un lien entre ces différentes questions. Et du coup, la santé sexuelle, pour moi, c'était un peu l'intersection de ces différentes choses. C'est-à-dire qu'on a du biomédical, mais on a aussi du social et du politique. Donc il y a eu ça d'un côté, et d'un autre côté, il y a aussi eu le fait que personnellement, par rapport à mon parcours de santé, ça me parlait aussi de m'intéresser à la santé sexuelle et à tout ce qu'il y avait autour.
Personnellement, il y a quelque chose de spécifique ou...
Personnellement, j'ai toujours eu des règles très douloureuses. Et je me suis tournée au début vers le corps médical qui ne m'a pas du tout aidée. Donc j'avais des questions et pas de réponse en face ou alors des réponses qui ne me convenaient pas. La plupart des médecins que j'ai vus me disaient de prendre la pilule sans me dire pourquoi, comment, ni ce que ça allait faire ou pas faire. Du coup, je me suis retrouvée un peu frustrée par rapport à tout ça et je me suis dit que j'allais chercher les réponses moi-même et m'intéresser à la fois l'aspect scientifique et académique et à la fois tout ce qu'il y avait autour et les alternatives un peu.
Mmh. Rina, ça fait écho au déclic qu'il y a eu chez toi ?
Oui, tout à fait. Moi, je me suis intéressée à la santé parce que j'avais une mauvaise santé. Donc, quand j'étais petite, j'ai eu beaucoup de maladies graves. Et ça m'a pris beaucoup d'années pour comprendre que pour une jeune fille, pour une enfant, c'est plus facile de tomber malade que de se révolter. Moi, je vivais dans une famille patriarcale, juive orientale, où la différence entre l'éducation des garçons et des filles est très importante. Et voilà, avec le MLF, j'ai pu mettre des mots autour de tout ça, que le personnel est politique et ce qui nous arrive à l'une ou à l'autre, c'est pas juste notre petite histoire personnelle, mais qu'elles se ressemblent étrangement les unes aux autres. Et voilà, donc j'ai eu un avortement vers 18-19 ans, comme ça, et c'est comme ça que je suis rentrée au MLF. Et par la suite, ma santé s'est considérablement améliorée, entre autres en travaillant avec les copines, avec le groupe Self-Help, avec le dispensaire des femmes, avec les plantes médicinales.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'était à l'époque le Self-Help ?
Alors le Self-Help, c'est une technique de réappropriation du corps où en fait on fait des groupes, on faisait en fait des groupes, on appelait ça des groupes de conscience. Aujourd'hui on appellerait ça peut-être des groupes de parole ou ça peut avoir différents noms. Et donc on s'asseyait ensemble et on se racontait nos histoires de vie. Et on prenait aussi le temps de s'examiner, de regarder comment on est faite, comment sont faites nos seins, nos vulves, même d'employer un spéculum, de regarder le col, d'apprendre tout ce qu'on peut apprendre au sujet de notre propre corps et qui nous a été caché, qui était peut-être la propriété des médecins, des maris, de qui sais-je. Donc c'est une technique de réappropriation du corps et qui se pratique collectivement.
Et aujourd'hui au Bioscope, Maïva, vous travaillez aussi à cette réappropriation de son corps, à en tout cas connaître, peut-être il n'y a pas le toucher, mais en tout cas il y a mieux connaître les organes génitaux, comment est-ce qu'on est fait, comment est-ce que le corps fonctionne.
Oui, c'est une chose sur laquelle on travaille. Donc à la fois, il y a la question de la représentation, de représenter une diversité de corps et de représenter la diversité qui existe au final, au lieu d'avoir des représentations très normées et très limitées et très binaires. Il y a quand même un peu la question du toucher, dans le sens où on a écrit une brochure qui s'appelle « Mon sexe et moi », où en fait, on invite les personnes qui la lisent à s'auto-explorer, à prendre un miroir, à aller toucher leur vulve, écarter les lèvres, regarder ce qu'il y a, et leur pénis, et leurs organes autres, s'ils ont d'autres organes. Donc il y a quand même cette question-là, même s'il y a moins la dimension collective.
La dimension collective, pour nous, elle a extrêmement d'importance, parce qu'en fait, quand on fait ce travail, souvent, il y a peut-être des choses qui ressortent du passé, qui ne sont pas toujours légères. Il peut y avoir des choses qui ont été vécues d'une façon abusive auparavant. Et donc, le fait d'avoir un groupe autour de soi, c'est quand même un soutien assez important. Ou bien alors, si ce n'est pas le cas, il faut prévoir une séance après pour pouvoir prendre le feedback, enfin pour pouvoir reprendre tout ça, puis essayer de faire en sorte que ce soit dynamique et que ça permette d'aller de l'avant. Ça peut s'appeler un groupe de parole. Dans les milieux spiritualistes, ça peut s'appeler les tentes rouges. Il y a toutes sortes de noms pour cela. Le plus important, c'est de ne pas rester seul quand on a un problème. Ici, on parle de problèmes de santé, de beaucoup de choses qui ont à voir avec la sexualité. De ne pas rester seul dans son coin, mais de rechercher d'autres personnes qui ont peut-être vécu des choses similaires et puis essayer de se mettre ensemble pour se renforcer et pour aller de l'avant hors tabou et hors silence.
Mmh. Je suis assez d'accord avec ça. Après, là, on a une limite un peu institutionnelle, c'est-à-dire que c'est une brochure de l'Université de Genève. Donc, il y a eu ça. Et à la fois, en cours, quand on discute avec les élèves, la question du premier rendez-vous chez le gynéco revient très souvent. C'est une grande inquiétude. Et là, c'est quelque chose qu'on peut aborder, de dire, en fait, t'as le droit d'y aller avec qui tu veux, avec tes amis, à plusieurs. Et si le gynéco refuse, change de gynéco. Donc c'est vrai que la dimension collective, elle reste importante, même si c'est pas quelque chose qui transparaît forcément dans ce travail-là. Mais oui, effectivement.
Avant qu'on se lance dans une discussion sur la santé sexuelle et la naturopathie, est-ce que vous pouvez rapidement, pour nos auditeurs et auditrices, définir ces deux concepts ?
Ok. Donc pour la santé sexuelle, celle sur laquelle je me base plutôt, même si après on élargit et on l'utilise un peu comme ça nous parle aussi en termes de militantisme, Il y a la définition de la santé sexuelle de l'OMS qui dit que c'est un état de bien-être physique, mental, social, et que c'est pas juste une absence de pathologie ou de dysfonctionnement. C'est vraiment le fait d'avoir la liberté de vivre sa sexualité avec les personnes qui nous attirent et d'être en sécurité dans sa sexualité. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a les questions de consentement vraiment qui sont essentielles, enfin qui l'ont toujours été.
La naturopathie, c'est traiter les maladies, pathos, par des moyens naturels. Et ça comprend la phytothérapie, l'homéopathie, l'alimentation et toutes sortes de méthodes qui rentrent dans ce grand paquet, dans ce grand ensemble.
Et je précise ici que Rina Nissim a écrit beaucoup de livres sur ces questions-là, dont un qui est sous mes yeux, qui s'appelle « Manuel de gynécologie naturopathique à l'usage des femmes » aux éditions Mama Mélis, qui auront 40 ans l'année prochaine.
C'est ça.
Je pense qu'il y a quelque chose dans vos combats et dans vos parcours qui est en commun, c'est de lutter contre la honte de son propre corps et tout ce que ça peut amener après aussi de conséquences sur la santé mentale et physique. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui faire tomber ce mythe du corps parfait à une époque aussi où toujours l'image est très présente, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télévision, au cinéma?
Alors, je pense qu'il y a le fait de faire tomber ce mythe et lutter contre les normes et essayer d'aller les déconstruire. Donc ça, c'est une chose. Et à la fois, j'ai l'impression que cette chose-là, c'est un peu lutter contre le symptôme. Alors que derrière, il y a la cause du symptôme et le système, qui est le système patriarcal, si c'est hétéronormé aussi. Où en fait, ces normes qu'on pose sur les corps, et particulièrement sur les corps féminins, c'est vraiment un outil pour contrôler les personnes. Contrôler qui est assez féminine, qui ne l'est pas assez, qui a le droit d'entrer dans la féminité ou pas. Et je pense que c'est aussi un truc d'aller voir ce système-là, l'examiner et voir comment on arrive à le démanteler et pas juste se concentrer sur les normes de beauté, par exemple, même si c'est un truc très très présent. Donc c'est un truc d'attaquer le problème à différents endroits, je pense.
Mm-hmm. Hors de la nuit des normes, hors de l'énorme ennui. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est de la contre-information. Et c'est ce que j'ai fait par le passé, c'est ce que tu fais, et c'est ce que les jeunes féministes vont continuer à faire, la contre-information.
Quelles sont les différences que vous voyez entre militer ou informer, simplement sensibiliser, hier et aujourd'hui?
La différence majeure, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. C'est ça la différence majeure. Je veux dire, nous, on a travaillé avec des tracts qu'on tirait sur une machine Gestetner, des petites brochures qui sont bien sûr faites à l'imprimerie. Mais néanmoins, on en parvenait quand même à en vendre beaucoup, ces petites brochures qui sont là sur la table, sur l'examen gynécologique, sur l'avortement, la contraception. On les imprimait par milliers et ça partait comme des petits pains, hein, donc ça circulait quand même très très bien. Mais certainement aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez des possibilités de diffusion qui sont bien au-delà de ce qu'on a pu faire.
Oui, je pense que dans les réseaux sociaux, on parlait tout à l'heure de groupes de self-help et de partage d'expériences et de témoignages, et je pense qu'on retrouve aussi cet aspect-là sur certains comptes Instagram qui parlent de sexualité, des gens qui vont témoigner, qui vont partager et se rendre compte par ce biais-là qu'elles ne sont pas toutes seules justement. On a aussi des versions papier et on travaille toujours avec. L'avantage des réseaux sociaux et même des versions un peu PDF, c'est que moi j'ai des élèves qui me disent parfois « en fait je peux pas ramener cette brochure à la maison, si mes parents voient ça je vais me faire engueuler, je vais me faire tuer, etc. » De leur donner le QR code, de leur donner le PDF, de dire « tu peux regarder sur ton téléphone », ça aide aussi à diffuser l'information à des endroits où elle serait peut-être pas allée autrement. Mais c'est vrai que c'est plus une combinaison de tous les outils plutôt que de dire qu'il y en a qui ont remplacé certains ou qui sont mieux que d'autres, quoi.
Et puis il y a des affiches aussi, on n'a pas parlé, mais les affiches c'est très important, on a une collection d'affiches extraordinaires pour le MLF à Genève et environ, mais par les affiches on peut aussi faire passer des messages extraordinaires, par l'art, par les images. Je crois qu'il y a toutes sortes de moyens et en effet je crois que chacune après, chacune et chacun vont glaner avec leur avidité et leur curiosité pour trouver ce qui va leur permettre de grandir en confiance.
Quand je suis arrivée, Rina a sorti donc les brochures de self-help et aussi les... Qu'est-ce que c'est, c'est...
Notre corps nous-mêmes, Our Bodies Ourselves, Boston Women's Health Book Collective.
Voilà. Donc tu as déposé tout ça sur la table en disant que c'était du matériel pornographique et en rigolant un bon coup. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce qu'il y a dedans et pourquoi c'était vraiment vu comme de la pornographie?
Il y a deux ouvrages phares pour nous, pour le MLF, c'est Notre corps nous-mêmes, et puis l'autre ouvrage qui venait de Los Angeles, A New View on the Woman's Body. Et ces deux ouvrages sont fondateurs pour nous, parce que c'est, voilà, c'est le fin des années 60, début des années 70, c'est vraiment les débuts, et elles présentent tout cash.
Et à l'intérieur, on retrouve des dessins qui sont effectivement pas pornographiques, mais très explicites et très clairs. Et c'est un peu la même chose qu'on a dans la brochure que vous avez faite à l'université Mon sexe et moi, où voilà, on représente les organes génitaux et on explique comment ils fonctionnent.
Pourquoi pornographique? Pourquoi j'ai employé ce mot tout à l'heure? Parce qu'à l'époque du dispensaire des femmes, on avait fait une demande de fonds à l'État de Genève. Ça n'avait pas fonctionné parce que les députés avaient dit non, mais leur matériel, il est vraiment pornographique. Ça ne va pas du tout. On ne peut pas soutenir une chose comme ça. Et puis, ce n'est pas hygiénique chez elles, etc. Et il y avait eu une manifestation avant la conférence internationale Femmes et Santé de 81. Ils avaient défilé les usagères du dispensaire avec une banderole qui disait « Pour une hygiène poétique ». On n'avait jamais eu les sous de l'État, mais c'est pas grave.
On a eu ces mêmes problèmes un peu de représentation. Hein. Enfin, c'était considéré comme trop explicite, cette brochure. Pareil, l'idée, c'était qu'elle soit diffusée dans les écoles, en tout cas dans le canton de Genève, et ça a été très difficile. Alors que c'est des dessins qui sont même pas anatomiques, c'est vraiment des illustrations, même si c'est des illustrations basées sur des vraies personnes. Après, tout le travail qu'on fait au Bioscope, c'est aussi de dire que en fait, c'est de la santé et c'est de la médecine, c'est de la biologie, et c'est par là qu'on essaye d'entrer un peu dans ces milieux où ça peut être plus fermé. Et c'est là, c'est comme ça qu'on essaye de parler aux gens aussi. Quand les personnes vont être gênées parce qu'on parle de sexualité ou de sexe, de leur dire bah, en fait, c'est du corps, c'est des cellules, et ça fonctionne comme ci ou comme ça. L'idée, c'est de normaliser et de faire en sorte que les gens soient plus gênés. Ce que les élèves disent, des fois, ils disent qu'ils sont dégênés à la fin de la séance. C'est comme ça qu'on essaye de faire, en tout cas, même si, de nouveau, il y a plein de manières de faire. Mais c'est une difficulté qu'on a. Et sur les réseaux sociaux, c'est un problème qu'ont aussi tous ces comptes féministes d'éducation à la sexualité. C'est que régulièrement, elles se retrouvent ou avec le compte qui est fermé, ou qui est supprimé, ou avec les algorithmes qui le trouvent plus. Et pareil, moi j'ai régulièrement des parents qui viennent me demander « Est-ce qu'il faut que je mette un contrôle parental pour mes enfants ?» Et en fait, le problème des contrôles parentaux, c'est que ça enlève aussi les sites qui sont importants pour la santé. S'il y a le mot IVG, typiquement, il y a des contrôles parentaux qui ne vont pas laisser passer. S'il y a le mot LGBT, c'est pareil. Et à côté de ça, il y a quand même du porno qui va passer.
Ouais, je sais pas, c'est un peu affligeant. Et pourtant, un peu tout ça, c'est ce qui contribue quand même à faire que les femmes peuvent accéder à une forme d'autonomie dans leur corps et dans leur vie.
Oui, c'est le mot-clé, c'est l'autonomie, c'est évident. C'est-à-dire que on peut avoir du soutien auprès de certains soignants, on peut avoir du soutien auprès de psychologues ou d'autres professionnels, mais ce qui est quand même le plus important, c'est quelle confiance on va acquérir envers nous-mêmes et comment on va gagner suffisamment d'autonomie pour gérer les choses qui vont se passer, pour savoir quoi demander à qui, pour savoir parmi les propositions qui nous sont faites, ben, celles qui nous conviennent, celles qui ne nous conviennent pas, pour sélectionner, pour ben voilà, avoir à la fois l'ouverture, mais à la fois aussi cet esprit critique. Je crois que l'autonomie, c'est vraiment le mot-clé. C'est sur ça que j'ai travaillé toute ma vie, que voilà, tout le MLF était branché sur cette question. Mon corps est à moi, c'est à moi de décider. Mais il me faut des armes quand même.
Pourquoi ce serait à quelqu'un d'autre de décider ce qu'on fait de nos corps et pas que le corps des femmes? En fait, on pense aussi actuellement au corps des personnes trans qui sont hyper policées et qui se heurtent aux mêmes freins qu'il y a eu ou qu'il y a toujours quand on parle d'IVG ou de contraception ou de plein de choses. Donc en fait, c'est le même combat, c'est la question de l'autonomie, de l'autodétermination, du contrôle des corps et de qui contrôle les corps et à qui ça profite.
Dans nos consultations au dispensaire des femmes, on prenait quand même une heure. Donc l'examen, que la femme puisse regarder elle-même son corps en premier, son col en premier, si on met un spéculum. Et puis après, donc, on expliquait ben, quel est le problème, s'il y a par exemple une infection ou quelque chose. Quel serait le traitement en médecine moderne occidentale? Quel serait le traitement alternatif? Et vous, comment vous vous sentez par rapport à cette question? Ça prend du temps, tout ça. Très souvent, au bout d'un moment, la femme disait « Ah oui, c'est très bien, et vous, qu'est-ce que vous pensez qui est mieux pour moi ?» Ah ben non, on recommence à zéro. Explication, telle méthode, avantage, inconvénient, telle méthode, avantage, inconvénient. Voilà, ça prend du temps de faire ça, mais en même temps, c'est la seule façon de s'y prendre pour la mettre dans une situation où elle prend les décisions pour elle-même. Elle ne dit pas juste « oui, amen » à son médecin.
Oui, moi, je rencontre la même chose en éducation sexuelle, où une question qui revient tout le temps, c'est quoi la meilleure contraception? Alors qu'on se retrouve à donner les avantages, les inconvénients, à présenter toute la liste, et en fait, elles attendent une réponse vraiment plus claire que ça, alors que le but, c'est qu'elles puissent prendre les décisions pour elles, en toute connaissance de cause.
Oui, et je crois que la notion du consentement, elle revient beaucoup aujourd'hui et elle s'applique aussi au domaine de la santé.
On parlait des informations qui circulent plus aujourd'hui, peut-être. Et en fait, c'est pas parce qu'elles circulent plus qu'elles sont plus mises en pratique. Typiquement, moi, j'ai des jeunes, si je leur demande c'est quoi le consentement, ils savent définir. Ils ont bien appris les slogans, en fait. Et quand je leur demande s'ils mettent en pratique, ils disent non, on sait pas faire, non, c'est gênant, c'est pas naturel, etc. Parce que c'est pas quelque chose qui est pratiqué, c'est pas quelque chose qu'on pratique avec les enfants depuis tout petit, de leur demander quand on veut faire un bisou, les chatouiller, le médecin qui leur demande s'il peut regarder leur corps. C'est vraiment une pratique au quotidien et c'est pas juste un truc sexuel au final. De nouveau, on retombe sur cette vision de la santé vraiment très large et très holistique de c'est la vie de tous les jours et c'est pas juste son sexe et sa sexualité, quoi.
Ici, peut-être, j'ai une question qui vient de l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, je reçois deux femmes qui s'engagent dans l'armée. Laureline Wasilewski, qui a 19 ans, qui est soldat, celle qui choisit le masculin, apprentie en horlogerie, puis candidate aussi au Conseil national pour les Verts libéraux, avec Chantal Honegger-Roup, qui a 65 ans, qui est lieutenant-colonel à la retraite et conseillère communale UDC-PAI. Ensemble, elles ont réfléchi à une question pour vous, je vais vous la faire écouter.
On s'est concertées et on s'est dit qu'on allait leur poser comment responsabiliser les hommes par rapport à la contraception et puis de manière plus globale à la charge mentale, physique et financière liée à celle-ci.
Bon, dans les consultations en dispensaire des femmes, là, à chaque fois que c'était possible, on leur demandait de venir avec leur partenaire volontiers, qu'ils étaient les bienvenus. Donc on peut faire des discussions à deux, on peut faire des discussions à trois, à quatre, on peut faire des groupes également. Maintenant, pour conscientiser les hommes, il faut qu'eux aussi soient informés des méthodes, des avantages et des inconvénients, et qu'ils les comprennent, qu'ils les intègrent, parce que c'est vrai que c'est assez facile de se reposer sur sa partenaire et dire « Écoute, t'as qu'à prendre la pilule, oh, écoute... » C'est tout un travail, c'est pas une chose facile, mais il y a aussi des groupes d'hommes qui se sont réunis et qui ont essayé d'investiguer ensemble des méthodes de contraception pour eux. Ils ont aussi fait des études intéressantes, il y a eu le collectif de Lyon, il y en a eu d'autres.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle demande comment responsabiliser les hommes, et en fait c'est eux qui devraient se responsabiliser, parce que si nous on les responsabilise, ça veut dire qu'on a la charge mentale et le travail gratuit de les responsabiliser et de les éduquer et de leur amener les informations. Au planning familial en France, on reçoit des gens qui veulent se contracepter, mais de nouveau, en fait, ils viennent chercher des informations et après ils partent. Ils se mobilisent pas forcément, ou pas tous, ou on a du mal en tout cas. Donc en fait, ils font pas ce travail d'auto-organisation et de s'éduquer tout seul. Et à côté de ça, il y en a qui effectivement vont se mobiliser. En ce moment, on mène une étude sur la contraception testiculaire thermique au HUG, remonter les testicules pour les maintenir au chaud et arrêter la spermatogénèse. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est des gens ultra motivés, justement, qui vont aussi aller parler à d'autres hommes et puis diffuser l'information. Et là, ils font ce travail-là. Et c'est vrai que c'est encore difficile et on est en fait, toute l'équipe de recherche, on n'est que des femmes. Et donc, c'est un peu toujours le même problème, quoi. Donc, si on a un moyen de les responsabiliser, moi, je veux bien la réponse. Mais actuellement, j'oscille entre « Ok, on va faire le travail avec des gens motivés » et en fait, ils devraient faire le travail eux-mêmes, sinon on va faire sans eux et avancer sans eux. Et voilà.
On peut difficilement avancer sans eux. Moi, si j'étais hétérosexuelle et que j'étais jeune, la méthode de remonter les testicules pour chauffer, je crois que j'aurais quand même mon petit microscope et puis que je vérifierais dans le sperme qu'il n'y a pas trop de spermatozoïdes qui gesticulent. Parce que c'est une question de confiance, c'est difficile pour une femme hétérosexuelle qui a un cycle qui marche bien, n'est-ce pas ?
Oui, je pense que c'est vraiment une question importante, et dans la manière dont eux-mêmes l'abordent. Moi, j'ai déjà eu des hommes qui voulaient des informations, qui me disaient « j'ai dû convaincre ma partenaire ». Et en fait, il y a la question du consentement, de si on doit convaincre sa partenaire, c'est qu'on est mal parti, en fait. Ça devrait même pas être une question. Et de nouveau, la question de l'autonomie, en fait. Pourquoi il veut la convaincre ? Pourquoi il se contracepterait pas de son côté, quelle que soit sa décision à elle, de se contracepter ou non, et d'avoir des rapports pénétratifs ou non. Donc en fait, il y a vraiment cette question du consentement aussi derrière, et de la confiance.
Par rapport à cette question de la contraception, vous avez grandi aussi dans des époques où il me semble quand même que le discours par rapport à la contraception féminine était très différent. Rina, est-ce que c'est ma compréhension ou est-ce que c'est juste qu'à l'époque, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup ce discours de la pilule, point barre ?
Non, je crois que c'est quand même un petit peu plus subtil que ça. Bon, dans les années 60, il n'y avait pas grand-chose en effet. Hein. Il y avait les préservatifs, soyons honnêtes. La pilule, elle date quand même de cette époque, mais ça commence d'abord aux États-Unis. Mais il faut savoir que la pilule, elle n'a pas été inventée pour libérer les femmes des pays riches. Elle a été inventée pour limiter les naissances dans les pays pauvres, pour que les femmes ne viennent pas réclamer leur part du gâteau. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Hein. Et c'est quand même les femmes des pays riches qui s'en sont emparées. C'est vrai donc que dans les premières années du MLF, donc on revendiquait d'avoir accès à des contraceptifs efficaces.
Mais c'était un grand soulagement aussi, j'imagine.
Oui, c'est un grand soulagement. Je pense que ça a apporté une grande libération aux femmes hétérosexuelles d'avoir accès à une contraception fiable. Pour autant, on n'était pas naïves. J'aimerais quand même le préciser. On a toujours su qu'il y avait des effets secondaires, que ce ne serait pas une chose toute simple et on l'a critiqué. Je veux dire, dans nos brochures, si vous regardez, on discutait déjà ça. Oui, c'est quand même une libération, mais c'est compliqué.
En fait, de nouveau, on est quand même limité. Effectivement, il y a les préservatifs, il y a les stérilets, et après, il y a toute la panoplie des contraceptions hormonales, quel que soit le moyen de diffusion des hormones. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est quand même un peu limité avec ces choses-là, en sachant que même les contraceptions définitives, quand on est jeune, c'est hyper compliqué d'y accéder aussi. Donc en fait, on a l'impression qu'on a vraiment beaucoup de moyens à disposition, et c'est super, mais il y a quand même des limites.
Mais citons quand même les contraceptifs barrières. Donc nous, le travail qu'on a fait au dispensaire et que tous les centres de santé de femmes ont fait dans tous les pays, ça a été quand même de promouvoir également la possibilité d'employer un diaphragme, une cape cervicale. Bon, bien sûr, il faut apprendre à l'employer, mais c'est quand même une méthode intéressante. Employée avec un gel spermicide dans de bonnes conditions, on arrive à des pourcentages d'efficacité proches de celui du stérilet. Donc voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Et puis, il y a peut-être aussi des périodes différentes dans la vie d'une femme hétérosexuelle. Je veux dire, c'est pas la même chose à l'adolescence, jeune adulte, quand on est en ménage, dans un couple installé, qui a déjà deux enfants. Je veux dire, les choses, elles vont évoluer et peut-être qu'on aura le temps de visiter plusieurs méthodes et que ça donnera un peu d'air.
Il y a quelque chose qui m'a frappée dans vos deux parcours, c'est que Maïva, toi, tu fais ton doctorat actuellement sur le clitoris et Rina, tu as travaillé sur différentes maladies féminines comme l'endométriose. Et c'est, j'exagère volontairement, mais deux redécouvertes de la médecine traditionnelle. Est-ce que ce serait la preuve qu'il y a vraiment des biais de genre dans l'approche médicale traditionnelle ?
Alors, je pense qu'il y a de toute façon clairement des biais de genre. Après, sur la question de la redécouverte, en fait, c'est assez cyclique. C'est redécouvert régulièrement dans l'histoire, par plein de gens différents et de plein de manières différentes. C'est plus la question de pourquoi à un moment on arrête de l'étudier ou on le réoublie qui est intéressante, je pense. Et le fait de pouvoir aller chercher les infos qui existent déjà pour empiler plutôt que de refaire en boucle la même chose. Et avec le clitoris, typiquement, c'est que dans la littérature scientifique actuellement, on n'a pas grand-chose. Il y a plein de questions qui sont sans réponse et il y a plein de mythes qui continuent à circuler, y compris dans les articles scientifiques. Alors qu'en fait, il y a des informations qu'on ne trouve pas dans la littérature scientifique, mais qu'on trouve dans la littérature féministe, dont le livre dont parlait Rina tout à l'heure, « A New View of a Woman's Body ». Ça parle d'éléments autour du clitoris ou autour de la vulve, où on ne trouve pas ces choses-là dans la littérature. Et c'est une des choses que j'aimerais aller pouvoir explorer dans la recherche que je fais actuellement.
Tout à fait. Ben, moi, je suis heureuse de le savoir, mais ça me comble. C'est vrai, dans tous ces ouvrages féministes, ils ont quand même bien circulé. Je suis bien contente qu'encore aujourd'hui, on se rappelle de A New View on the Woman's Body. Mon livre sur la sexualité des femmes, c'est plus récent que ça. Je crois que c'est 2004, mais j'ai déjà aussi un dessin assez ostensible de comment c'est un clitoris. Et je crois que c'est vraiment essentiel. Beaucoup de femmes m'ont raconté, comme tes élèves racontent, ah ben maintenant je me sens un peu plus détendue. C'est vrai, quand on a accès à ces informations, on gagne en confiance, quoi. On gagne en confiance. Et pour les affections, c'est pareil. Je veux dire, pour les infections, c'est vrai que les gynécos ne s'intéressent pas énormément aux vaginites chroniques et aux cystites chroniques. Hein. C'est pas passionnant pour eux. Puis alors, quant à l'endométriose, n'en parlons pas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont erré sans diagnostic pendant des années avec des propositions complètement inadéquates. Et pourtant, c'est un champ très important dans lequel travailler. Et nous, en effet, depuis les débuts du dispensaire, on avait des propositions, des explications sur ce que la médecine moderne occidentale a à offrir, mais aussi des alternatives en phytothérapie, en amélioration alimentaire. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, heureusement.
Concernant l'endométriose, durant mes études, donc mon master en santé des femmes, j'ai eu un cours qui s'appelait santé reproductive, où j'ai écrit un essai sur l'endométriose, où j'ai eu une très mauvaise note, puisque l'enseignant n'était pas très content, il était gynécologue, c'était un homme, et où je citais des articles de recherche qui montraient qu'en fait, quand on traitait l'endométriose dans la médecine traditionnelle, en fait, on renforçait les normes de genre. C'est-à-dire qu'on traitait la personne pour qu'elle entre dans la norme et de pouvoir se reproduire, et de pouvoir être pénétrée, mais qu'on ne traitait pas forcément son bien-être ou sa douleur. Et du coup, ça n'a pas plu. Et je pense que c'est là-dessus aussi que le dispensaire des femmes proposait plus de choses que juste faire en sorte que les femmes puissent avoir des rapports hétérosexuels pour faire des enfants, quoi.
Absolument. S'agit-il de renvoyer l'ouvrier sur le bâtiment avec un corticoïde pour qu'il puisse continuer à travailler, ou bien est-ce qu'on pourrait envisager un arrêt de travail ?
Il y a plein de thèmes comme ça qui pourraient être cités en fait. Il y a quelque chose dont toi, Rina, t'as parlé en introduction comme ayant été un déclic pour ton engagement, mais c'est l'avortement qui est encore et toujours menacé comme droit à l'avortement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette thématique-là ?
Alors si on parle en Suisse, donc on a enfin obtenu le droit à l'avortement avec la loi en 2002, ce qui est quand même très tardif par rapport à tous les pays voisins, 75 pour la France, etc. On a toujours affaire quand même à une forte résistance dans les milieux d'extrême droite qui régulièrement essayent d'attaquer ce droit. Ils ont essayé en 2014 avec la question du remboursement de l'avortement. Ils ont échoué complètement. Et tous les prochains rendez-vous, les féministes seront encore là pour les défaire, parce que c'est un droit fondamental pour nous. Moi, je fais partie d'une génération qui a connu les années 60 où l'avortement n'était pas disponible et il y avait des avortements clandestins, il y avait quand même des décès, c'est quand même quelque chose de très très grave. Et donc, cette revendication a été fondamentale pour le MLF et restera fondamentale pour les femmes aujourd'hui.
Oui, puis je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des initiatives récemment de nouveau de l'UDC, etc. Directement contre l'avortement, ils sont plus insidieux que ça. Et du coup, les discours sont plus nuancés, plus sournois. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un danger à aider les personnes à voir que, en fait, ça s'attaque au droit à l'avortement, même si ça ne se dit pas comme ça. En Suisse, il me semble quand même que même si on a ce droit-là, il me semble qu'il y a quand même besoin de l'approbation de médecins pour pouvoir y accéder. De nouveau, ça ne dépend pas de la décision de la personne, mais de la décision d'autres personnes. Ce qui, moi, me semble quand même assez, assez dangereux, en fait.
Mmh. Et vu qu'on est en train de parler de santé sexuelle, je voulais quand même parler de sexualité. On vit à une époque où il y a beaucoup de pornographie. Comment est-ce qu'on peut développer une sexualité qui soit saine et en sécurité ?
Je pense qu'aujourd'hui, par rapport au porno, c'est une question qui revient tout le temps, et de la part des jeunes pendant les séances, et de la part des parents quand on les rencontre. C'est vraiment la grande peur, un peu. Et en fait, on en revient à ce truc de est-ce qu'il faut empêcher, interdire, mettre un contrôle parental ? En fait, on peut pas. On a beau essayer, je pense qu'on n'y arrivera pas. C'est plutôt de comment on accompagne ça, comment on en parle, comment on autorise les personnes à nous en parler, les jeunes à nous en parler. Parce que ce qui se passe quand on interdit quelque chose, c'est que les personnes ne peuvent plus poser de questions sur le sujet. Si on leur dit « vous aviez pas le droit d'en voir », bah ça coupe la discussion. Alors que si on dit aux personnes qu'elles ont le droit de poser des questions sur tout, là on ouvre la discussion et ça veut dire que si les jeunes ont vu des choses qui les ont choquées, avec lesquelles ils sont ou elles sont pas d'accord, ou sur lesquelles il y a des questions, bah on peut en parler. En fait, on peut juste discuter de qu'est-ce qui existe comme porno qui est dit éthique, les personnes qui travaillent dans cette industrie, comment le consentement, les normes qu'on voit, est-ce qu'on peut les déconstruire, est-ce qu'on peut accéder à une pornographie avec d'autres choses qui sont représentées, d'autres sexualités, d'autres corps. Donc il y a toutes ces questions-là, c'est très très large, mais en fait ça a besoin d'être une discussion, et ça a besoin d'être une discussion où on ne porte pas de jugement sur les personnes.
Rina, je te vois hocher la tête.
Oui, complètement. Je crois que dans les groupes, ce qui est intéressant pour les groupes de femmes quand elles se mettent ensemble et qu'elles se racontent leurs expériences, c'est de se raconter par exemple leurs premières règles, se raconter leur premier rapport avec pénétration, pour les unes, pour les hétéros. Je crois qu'autour de ces moments-là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut partager qui peuvent nous permettre de nous mettre plus à l'aise, de se rendre compte que ce que les autres ont vécu ressemble peut-être. Avec un groupe, on peut avancer beaucoup plus vite sur ces questions, beaucoup plus vite qu'en consultation individuelle, que ce soit avec une naturopathe, une psychothérapeute ou Dieu sait qui.
Et aller beaucoup plus loin, comme dit le dicton, que seul on va vite et qu'ensemble on va loin.
Exactement. Donc moi, j'ai vécu des groupes extraordinaires sur ces thèmes. Par exemple, suite à une conférence sur la sexualité des femmes avec une question simple, vaginite chronique, cystite chronique, y a-t-il un lien avec la sexualité ? Et puis regrouper 6 femmes qui ont envie de parler de ça. On peut faire des choses extraordinaires avec des groupes comme ça.
C'est intéressant parce que quand je t'entends parler, en fait, je pense à quand je suis avec une classe, c'est un groupe de parole. Et j'ai eu des séances comme ça assez incroyables où il suffit qu'il y ait une personne qui partage, qui commence à témoigner d'une chose. Et typiquement, quand j'ai des groupes avec que des filles qui me parlent de harcèlement qu'elles vivent vraiment très tôt, typiquement, elles se mettent non seulement à partager les expériences, mais à partager leurs astuces, leurs moyens de se défendre, et elles mettent en place des moyens d'autodéfense au sein d'un établissement. J'ai déjà vu des jeunes se dire « on va faire un groupe WhatsApp dédié juste à ça pour l'ensemble de l'école, quel que soit notre niveau, et même si on n'est pas copines, on va dessus ». Donc en fait, c'est un peu la même dynamique.
Avant de vous quitter, je voulais vous demander de poser une question aux deux femmes qui vont se succéder au micro la semaine prochaine, qui sont deux militantes pour le climat. Lucky Nati, qui a 21 ans, qui est étudiante et membre de la grève du climat, et Laurence Martin, 78 ans, qui est, elle, coprésidente des grands-parents pour le climat. Est-ce qu'il y a une question que vous voudriez leur poser ? Rina ?
Moi, ma question serait, entre la voie légale et les actions de désobéissance civile, il semble que rien n'y fait, les gouvernements font la sourde oreille, quelle pourrait être la troisième voie ?
Oui, je suis d'accord avec cette question.
Très bien, je me charge de la leur poser et rendez-vous la semaine prochaine avec une réponse. Avant de nous quitter, Rina, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire ou conseiller à Maïva, la nouvelle génération ?
Alors, ce que je voudrais dire à la nouvelle génération, c'est que face à un problème de santé, la première idée, c'est de ne pas rester toute seule dans son coin, mais de chercher, si possible, d'autres copines qui ont un peu les mêmes problèmes et d'essayer d'en parler avec elles et de s'assurer qu'on se mette à plusieurs face à ces questions.
Merci beaucoup Rina. Et Maïva, est-ce qu'il y a quelque chose aussi que tu aimerais demander pour conclure à Rina avant qu'on se quitte ?
Déjà, merci en fait à Rina pour tout ce qui a été fait avant et tout ce que tu continues à faire. Parce que c'est aussi là-dessus que nous on se base et que nous on arrive. Et je pense que ma question, ça serait, vu qu'il y a cette force du collectif, comment on fait quand ça s'essouffle ? Parce qu'il y a des moments de l'histoire où ça se passe moins et des moments où ça revient. Et des moments où le collectif où on était s'essouffle. Comment tu gères ça ?
La recette, c'est l'internationalisme. C'est d'aller ailleurs, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Nous, on a été voir les Allemandes dans la démarche self-help. J'ai été voir aux États-Unis dans la démarche self-help. Et dans beaucoup de problèmes qu'on a rencontrés, la meilleure solution, c'est d'aller voir comment les autres se débrouillent, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et on revient pleine de dynamisme et c'est reparti pour un tour.
Parfait. Merci pour cette conclusion. Merci Maïva Badré. Merci Rina Nissim d'avoir participé à ce 3e épisode d'Elle en français. À bientôt. C'était Elle, le podcast intergénérationnel de la Commission fédérale pour les questions féminines. Avec Maïva Badré et Rina Nissim. Production audio-sensible, réalisation et entretien, Laure Gabu, musique, Christina Baron, mix, Julien Matet, assistante, Erika Berazategui. Retrouvez tous les épisodes en français et en allemand sur comfem.ch. À bientôt.